Père céleste, nous sommes réunis ce soir, assemblés en ce lieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous comptons beaucoup sur la promesse, lorsque c'est le cas, de ta présence au milieu de nous. Quoi nous sommes dans la crainte, le tremblement, sachant que le Dieu Saint est au milieu de nous, nous qui sommes des pécheurs, nous voulons te demander que ce blocage de nos péchés soit complètement effacé par le sang de Jésus-Christ qui a été versé au calvaire. Par ce sang versé, tu as réparé nos fautes. Nous méritions un châtiment. Le châtiment est tombé sur lui. Pour nos maladies, il a été meurtri. Il a porté nos souffrances et nos douleurs. Combien nous voulons t'exprimer notre reconnaissance ce soir. Et pendant que nous sommes là, nous voulons nous asseoir à tes pieds, être conduits par toi, être instruits par toi. Au travers du grand enseignant qui est le Saint-Esprit, qui nous parle ce soir, qui nous aide en toutes choses, en tout ce qui se fera pour ce qui est de l'inspiration de ta parole ainsi que l'audition. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Elles sont nombreuses. Et pendant que tu nous pardonnes, donne-nous ce même cœur miséricordieux que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ta grâce soit au milieu de nous. Que tu bénisses tes enfants qui sont dans les maisons, certains dans l'affliction, d'autres sont au travail. Tu les bénisses, que tu sois avec eux. Parce que la flamme que tu as allumée en chacun de nous ne s'éteigne jamais. Qu'elle reste à tout moment allumée. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Salut tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lirons ce soir dans Ésaïe 43. Ésaïe 43. Verset premier. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On nous assoit. Dieu est formel quand il rachète, ça lui appartient. Et il ne rachète pas au petit bonheur la chance, il sait qui il rachète. Il dit, je t'appelle par ton nom. Il le connaît. Dans 1 Corinthiens 6, Dieu dit d'abord, dans Ésaïe 43, Dieu dit, tu es à moi, donc tu m'appartiens. Et Paul dit la même chose. Il dit, il n'y a pas que l'extérieur qui lui appartienne, ou le cœur, ou l'âme, mais l'être tout entier. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été racheté à un grand prix. Ça va? Ça veut dire que vous valez beaucoup. Un racheté vaut beaucoup, énormément. Même que Frère Branham dit, il vaut 10 000 mondes. On n'a pas été racheté par de l'or ou de l'argent. On a été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Tout ce qui est moi, si je suis racheté, appartient à Dieu. Il n'y a plus rien qui m'appartient. Quand ça m'appartenait, j'en ai fait des bêtises. Ça va? Amen? Mais Dieu a de projets, a de merveilleux projets sur moi quand il m'a racheté. Et il connaît le nom de ceux qui lui appartiennent. Tout au long des Écritures, du début à la fin, on voit que ceux qui lui appartiennent, Dieu les connaît. Il n'y a aucun ange qui va dire, qui vient d'abord sur la terre, examiner comment on vous appelle, et puis aller dire à Dieu, celui-là, c'est Thomas. Non. Dieu sait qui est Thomas. Ça va? Dans Jean 10, le titre c'est « Je t'appelle par ton nom ». Dans Jean 10, verset 1er, Jésus dit « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom, chaque brebis. Même s'il y en a une centaine, même s'il y a des homonymes. Vous savez, parmi les disciples, on voyait deux Jacques, n'est-ce pas? On pouvait voir deux Jacques. Il y a toujours un qualificatif qui montre de quel Jacques il s'agit. Il peut y avoir des homonymes, mais chaque brebis, quand Dieu l'appelle, même s'il y a deux brebis qui s'appellent de la même manière, celle que Dieu appelle, celle que le berger appelle, sait que c'est elle. L'autre sait que ce n'est pas elle. Vous allez voir ça. On va voir les Écritures. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. À l'inverse, les brebis également connaissent leur propriétaire. Verset 14, toujours dans Jean 10, « Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donnerai ma vie pour mes brebis. » Je disais donc, quand il y a une homonymie, donc des homonymes, vous savez, quand il a dû ressusciter Lazare, il est allé au cimetière. Il y avait probablement l'autre Lazare aussi, le pauvre. Mais ce n'est pas ce Lazare-là que Jésus appelait. Et ce Lazare-là, le pauvre, il n'a pas bougé de là où il était. Par contre, celui qui a bougé, celui qui est sorti, c'est Lazare, n'est-ce pas, de Béthanie. Et c'était son ami. L'homme riche, par contre, qui est mort, en même temps que Lazare, le pauvre, lui, il est devant Dieu anonyme. Dieu ne l'appelle pas par son nom. Jésus-Christ ne le désigne même pas par son nom. Il le désigne par un homme riche. N'est-ce pas ? Luc 16. Verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Certainement quelqu'un qui disait, oh, Dieu m'a tellement béni. J'ai plein de biens qui sont là. Et il s'amusait bien. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Finalement, le pauvre est mort quasi à la porte de ce riche qui... Je ne sais pas s'il est mort de faim, mais il est mort. Et Jésus le connaissait. Mais le riche aussi est mort. C'est ce que le riche oublie souvent, que la mort est aussi pour eux. La mort n'est pas seulement pour les pauvres. Le pauvre entrevoit vite la mort, peut-être, parce que ça peut être une solution à ses souffrances, mais le riche, bien sûr, il n'est pas très pressé de partir, à tel point qu'il peut se croire immortel. La santé, ça ne s'achète pas. C'est Dieu qui la donne. Savoir dire merci à Dieu quand on est en bonne santé. Savoir lui exprimer sa reconnaissance quand on est en bonne santé. Et le pauvre Lazare, Dieu sait qu'il est pauvre. Dieu sait qu'il est couvert d'ulcères. Dites amen à ça. Dieu sait qu'il cherche même à manger des miettes de certaines tables. Dieu sait qu'il a faim. Pour dire que quand Dieu vous connaît par votre nom, Dieu connaît vos problèmes. Il connaît vos afflictions. Il connaît vos souffrances. Il connaît vos douleurs. Et il sait par où vous allez passer. Il dit à Jacob, écoute, ne crains rien. Je te connais. Tu es à moi. Maintenant, tu traverseras des eaux. Ça va ? Vous êtes tous prévenus. Tu traverseras des eaux. Il ne dit pas, j'assécherai les eaux pour que tu traverses. Il dit, tu traverseras des eaux. Mais je serai avec toi. Tu traverseras des fleuves où le courant peut être fort, mais ils ne te submergeront point. Tu marcheras dans le feu de la fournaise, tu y marcheras. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi ? la flamme ne t'embrasera pas? Pourquoi les fleuves ne te submergeront pas? Pourquoi les eaux ne te noieront pas? Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Nous devons être conscients que c'est l'Éternel qui nous sauve, le Créateur des cieux et de la terre. Si vous attendez votre salut de moi, eh bien, vous risquez de l'attendre longtemps. Oui. Si vous dites, ah, frère François va bientôt arriver, il risque de ne pas arriver. Pris par un embouteillage, peut-être. Ou même, lui-même, étant dans l'affliction. Mais par contre, le Dieu Tout-Puissant, qu'il y ait embouteillage ou qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait des afflictions ou qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait une épidémie ou qu'il n'y en ait pas. Hein? Pendant le confinement, César va empêcher frère François de sortir. Il va lui dire, reste chez toi. Mais qui va empêcher Dieu de sortir? Qui va empêcher Dieu de venir chez vous? De venir de maison en maison. Faites des cellules. Oui, je fais ma cellule avec Dieu. Et c'est sans masque. Gloire à Dieu. Donc, Dieu connaît vos problèmes. Il savait que ce pauvre était couvert d'ulcères. Il savait que ce pauvre était dans le besoin. Lorsqu'on est dans cette situation-là, on s'imagine souvent que Dieu ne le sait pas. Et Dieu sait. Et nous le glorifions pour tout cela. Il connaissait le nom d'Abraham. Il connaissait Abraham par son nom. Et connaissant Abraham, il dit à Abraham ceci. Quand Dieu vous connaît, c'est ce qui se passe. C'est exactement ce qu'il fait avec Abraham. Il dit que quand il vous connaît, il dit d'abord, je connais Abraham, n'est-ce pas? Il dit dans Genèse 18, 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu ne vous cache rien. Normalement, un racheté de Dieu, Dieu vient, lui rend visite et lui parle de ce qu'il va faire. Les rassemblements du jardin d'Éden au commencement, Dieu les rétablit avec ses rachetés. Dans la fraîcheur du temps du soir, spirituellement, Dieu vient vous voir et vous parler avec lui. C'est pourquoi le psalmiste dit, médite cette parole nuit et jour. Quand tu la médites nuit et jour, Dieu est prêt à vous parler. Il vous parle au travers de sa parole. Il vous parle au travers de sa nature, comme on l'a dit dimanche. Il vous parle au travers de toute sa création. Il peut aussi vous parler au travers de vos songes. Il peut vous parler même par une voix audible. Et quand il vous parle, ce n'est pas pour dire des choses à répétition. Il va faire, quand il est prêt à faire une chose nouvelle avec vous, ou même autour de vous, il va vous le dire. Il le dit aux animaux. Vous savez, quand la terre est prête à trembler, avant même que la terre ne tremble, les animaux le savent. C'est sa création. Dieu le leur dit, ils sont prévenus. Tout comme Sodome va sombrer dans quelques instants, Abraham est au courant. Et vous êtes un peuple privilégié. Qui est celui-là dont, à qui Dieu parle? Sont rachetés. Et il parle à tous ces rachetés. Il ne fait pas d'exception de personne. Il dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Il ne lui cache rien de ce qui est nécessaire pour Abraham de savoir. Il dit à Abraham ce qu'il a résolu de faire. Et ce qu'il a résolu de faire, qui va l'empêcher de le faire? Personne. Il connaissait les faiblesses d'Abraham. Il connaissait les désirs d'Abraham. Abraham voulait une postérité. N'est-ce pas? Dans Genèse 17, il pleure presque. Il dit, je m'en vais, ce sera Eliezer qui sera de Damas qui sera mon héritier. Vous voyez? Mais Dieu dit, non, non. Tu auras un fils. Et Abraham va quand même en rire. C'est plutôt dans Genèse 15, Eliezer de Damas. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera de tes entrailles, qui sortira de tes... Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel. » C'est important de regarder le ciel. La créature, la création de Dieu, c'est important. Et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, plus tard dans Genèse 17, Dieu va changer le nom d'Abraham. Verset 4, 17:4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Vous savez ce que ça veut dire, Abraham? Père élevé. Mais ton nom sera Abraham, père d'une multitude, car je te rends père d'une multitude de nations. Le nom d'Abraham était devenu quasiment un nom de moquerie. Il n'avait pas d'enfant. Et on l'appelle, hein, bonjour, père élevé. Mais Dieu vient, il enlève cet opprobre. Et lui donne un nom tout à fait qui dit exactement ce qu'il devient. Lui qui avait besoin d'une postérité, désormais il est père d'une multitude. Alors qu'il était père de personne, amen. Maintenant il devient père d'une multitude. Le nom de moquerie que vous portez, Dieu va vous l'enlever. Il va vous donner un nom glorieux qui dit exactement ce qu'il a fait de vous. Il a transformé Abraham. Il a changé Abraham. Abraham est devenu différent. Parce que, vous savez, Dieu l'a appelé, il avait 75 ans. À 75 ans, on l'appelait père élevé. Alors qu'il n'avait pas d'enfants, encore moins de petits-enfants. C'est à se demander, c'est moi qui dis ça, c'est à se demander, c'est peut-être pas pour ça qu'il a pris Lot avec lui, lorsque Dieu l'a appelé. Comme ça, il pouvait dire, c'est mon fils. Non, c'était le fils de son frère. Gloire à Dieu. Hein? Dieu t'appelle, mais tu prends ton neveu. Je suis sûr, s'il avait des enfants en lui, il n'aurait pas pris Lot. Mais il devait justifier son nom d'Abraham. Mais ne justifiez pas, laissez Dieu lui-même justifier cela. Dieu est merveilleux. Il a appelé Moïse par son nom. Exode 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consomme point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Qui lui a dit qu'il s'appelait Moïse ? Dieu le connaissait. Et il savait que Moïse avait un problème de langage. Il savait que Moïse avait difficile à parler. Mais il dit à Moïse, va dire à Pharaon. Mais Seigneur, je bégaye. Dieu lui dit, va parler à Pharaon. Dieu vous connaît. Il ne regarde jamais à vos capacités. Il vous choisit, il vous prédestine à un travail, et ce travail lui-même vous rendra capable de l'accomplir. Lorsqu'il vous confie un travail, dites-lui, merci Seigneur, je l'accomplirai par ta grâce. Avec ton aide. Si tu es avec moi, c'est ce que Gédéon lui dit. Il dit, si tu es avec moi, on peut y aller. N'allez jamais sans lui. Jamais. Faites comme qui ça, Jacob. Lorsqu'il s'est battu avec l'ange, l'ange a voulu le quitter, Jacob l'a pris. Jacob l'a accroché. Il dit, ah non, non, avant de partir, bénis-moi. Parce que ta bénédiction, si tu as béni, c'est béni. Après m'avoir béni, tu peux partir. Mais bénis-moi d'abord. Amen. Et c'est ça. Donc, ne le laissez jamais partir. Quand il a quitté Béthanie, ben, Lazare et ses deux sœurs lui ont dit au revoir. Il est parti, quelques milliers de mètres plus tard, quelques kilomètres plus tard, quelques jours de marche plus tard, deux jours de marche plus tard, Lazare est malade. Tant qu'il était là-bas, Lazare n'était pas malade. Ou alors, il pouvait les laisser partir, Lazare et ses sœurs. Mais avant de partir, bénis-nous d'abord. Lorsqu'il vous bénit, il pouvait prier pour vous, n'est-ce pas, que le malheur ne tombe pas dans cette maison. Pendant que je serai parti, que la maladie ne vienne pas dans cette maison. Une fois qu'il a dit ça, vous pouvez laisser partir. Vous savez que vous êtes en sécurité. Sa parole même est une protection. Sa parole même est un bouclier. Je vais vous dire, c'est la meilleure. Sa parole, c'est la meilleure. Comment vous appelez ça? La mesure de... Avec le Covid, ils appelaient ça comment? Mesure de prévention, je ne sais plus comment vous dites. Mais c'est sa parole, ça. Hein? Tenez vos distances. Non, non. Prenez la parole de Dieu. C'est la meilleure des protections. Efficace. Efficace. C'est pourquoi quand ce genre de choses arrivent, on peut continuer, si César nous laisse le faire, on peut continuer à tenir nos réunions. Alors, gardons la parole de Dieu. Gardons-la sans la changer, sans l'altérer et sans choisir « ça j'aime bien, ça j'aime pas ». Toute la parole est bonne. Toute écriture est utile pour enseigner. Pour instruire. Alors, Moïse va dire, vous savez, le nom de Moïse d'abord, c'est pas Dieu qui est descendu disant appelez-le Moïse. Isaac, c'est le cas, c'est Dieu qui a dit vous l'appellerez Isaac, parce que ça veut dire il rit, parce qu'ils ont ri. Mais Moïse, c'est pas Dieu qui a donné. Ici, dans la Bible, c'est la fille de Pharaon. Là-bas, dans le monde, là-bas. C'est la fille de Pharaon, un ennemi de Dieu. C'est lui qui va l'appeler Moïse. Sauvé des eaux. Je l'ai retiré des eaux. Dans Exode chapitre 2, verset 7. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» Même les parents de Moïse n'ont pas trouvé le nom pour Moïse. Ils ont fait fuir l'enfant sans donner le nom. « Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. « Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Dieu protégeant son outil dans la maison même de son ennemi à l'insu de Satan. Tous les autres que Satan a tués là-bas, ce n'étaient pas ceux-là. Puisqu'il a tué des enfants. Par contre, celui que Dieu a destiné à faire le travail, c'est Pharaon lui-même qui l'a protégé. Moïse était dans la cour de Pharaon, il était intouchable. Qui pouvait venir le toucher? Il était le fils de la fille de Pharaon. Amen. Gloire à Dieu. Quand il eut grandi, il fit... Et elle amena à la fille de Pharaon, il fut pour elle comme un fils, et lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Ah, si tu savais pourquoi tu l'as retiré des eaux. Dieu avait un travail à faire avec lui. Et pourtant, Moïse, qui devait parler à Pharaon plus tard, beaucoup plus tard, Dieu n'a pas, ne lui a pas donné une grande éloquence. Et c'était à lui de venir parler à tout un peuple. Il n'avait pas une grande éloquence. Ce qui fait, aller combattre, arme à la main, parce qu'il avait appris ça, hein. Il avait appris les arts de la guerre chez Pharaon. Aller combattre à arme à la main, il était prêt à demander à ses frères de le suivre. Allez, on va combattre, Dieu va nous délivrer. Il était prêt à ça. Mais Dieu dit non, ce ne sera pas comme ça. Je vais t'envoyer parler. Ah, maintenant, on l'envoie parler. C'est quelque chose que peut-être que chez Pharaon, on ne l'aurait jamais fait. Parce que chez Pharaon, on savait que Moïse avait des difficultés de langage. Mais Dieu, amen. Mais Dieu sait, difficulté de langage ou pas, c'est Moïse qui l'a choisi. David dit, mais qui suis-je pour que tu te souviennes de moi? Alors, Moïse, il est là, il croit peut-être que Dieu ne le connaît pas. Non, 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 Dieu te connaît. Exode 4, 10. Exode chapitre 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Donc il est en train de se décrire à Dieu. Comme si vous me confiez un travail, je commence à vous dire non, je n'y arriverai pas parce que je ne sais pas faire ça. Demandez-moi de commencer à écrire des mails et des trucs comme ça, je vous dirai, je ne m'y connais pas dans ces choses. Vous voyez? Alors, si vous me demandez, chaque fois qu'on me, vous avez un mail, je dis, madame, monsieur, ça ne sert à rien, je vous donne le mail. J'ai 2 ou 3 000 courriers non lus. Je vais demander à mon frère, à mon petit frère ici, de les lire pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier. C'est depuis longtemps, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. « Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme ? Et qui rend muet ou sourd, ou voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? » C'est pour ça qu'il dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Va donc, je serai avec ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Oui, mais Dieu va lui dire, « Je le savais depuis longtemps. J'avais déjà prévu ça. J'ai parlé à ton frère, Aaron. Il arrive. Lui, il s'est parlé. » Il parlera à ta place. Dieu avait déjà prévu. Aaron est en route. Verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Il arrive, le Lévite. Je sais qu'il parlera facilement. Le voici. Donc Dieu dit, je sais. Amen. Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Amen. À tel point que plus tard, tellement Moïse parlait mal, plus tard, beaucoup plus tard, Aaron va dire, oui, mais Dieu parle aussi par nous. Amen. Ouais. Parce qu'il se sentait cette supériorité de langage. Je crois que c'est Frère Jean-Gérard, il m'a envoyé un extrait d'une prédication d'un frère qui a prêché. Ouh là là, mais il parle bien. Alors quand vous l'écoutez prêcher, vous n'osez plus aller prêcher. Mais c'est du lourd, je vous assure. C'est vraiment du lourd. Je lui ai écrit, je dis, c'est un excellent orateur. Mais maintenant, si Dieu vous dit, vas-y quand même, allez-y. Même s'il parle mieux que vous. Ce n'est pas un concours de langage. C'est un combat contre le péché. Amen. Mais c'était une bonne prédication. Il a prêché sur le paresseux. Bon, continuons. Donc, Dieu avait déjà prévu Aaron. Dieu connaissait le nom de David. Dieu avait même des projets sur David. Et David, son père, ses frères, et même le prophète Samuel, ne le considéraient quasiment pas. Pour le prophète Samuel, c'était Eliab. Dieu dit non, ce n'est pas lui. Abinadab arrive, ce n'est pas lui. Le troisième arrive, ce n'est pas lui. Six, comme ça. Alors, quand le prophète dit à Isaïe qui vient pour oindre un de ses fils, Isaïe, il n'a réuni que ses six fils-là. Il n'a pas trouvé la peine d'aller appeler David. Et pourtant, c'était David. Et pourtant, c'était bien lui. Gloire à Dieu. On va lire dans Psaume 33. Dieu avait des projets avec David. Dieu a des projets avec vous.
Amen.
Avec chacun de vous. Vous pouvez peut-être voir que le travail que Dieu va vous faire faire est un petit travail, mais c'est un travail énorme. Peut-être que vous êtes là, Dieu se servira de vous pour le salut d'une seule âme.
Oui.
Dans toute votre vie. Peut-être juste pour le salut d'une seule âme.
Amen.
Mais pour Dieu, c'est beaucoup. Parce que pour cette âme-là, il y a eu de la joie dans le ciel lorsque cette âme-là s'est repentie. Pour cette âme-là, n'est-ce pas? Oh, Dieu a tout laissé pour suivre cette âme-là, pour aller la chercher. Et Dieu s'est servi de vous pour l'attirer. Mais c'est une énorme tâche. Ne négligez pas ça. Maintenant, quand Dieu en sauve un par vous, ne vous asseyez pas sur vos lauriers. Continuez à travailler. Louez Dieu. Et chaque fois que vous verrez celui qui est venu en Christ, n'est-ce pas, par vous, vous glorifiez Dieu. Vous savez d'où il vient. Gloire à Dieu. Verset 9, 33, 9, psaume. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins, les projets des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Et dans Jérémie 29, il dit, ce sont des projets de bonheur qu'il a pour nous. Il connaissait le nom d'Élie. Élie, Élie, que fais-tu ici? Il connaissait le nom de Job. As-tu vu, d'où viens-tu? Hein, de parcourir la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Alors, on peut continuer la liste. Si Dieu connaissez tout ce monde-là. Continuez la liste. Que chacun continue la liste et qu'il arrive jusqu'à lui. Ah ouais, moi je dis aussi, si Dieu a connu le nom d'Élie, il connaît aussi le mien. Gloire à Dieu. S'il a connu le nom de Jacob, il connaît aussi le mien. Pourquoi il ne connaîtrait pas le mien? Frère François, ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Paul dit ceci. 2 Timothée 2. On a déjà lu un Corinthien tout à l'heure. 2 Timothée 2. Verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il me connaît. Il vous connaît. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Le fait d'être inique, de commettre l'iniquité, c'est que vous ne connaissez pas le nom du Seigneur. Jésus a dit, ou bien vous ne connaissez même pas le Seigneur, parce que Jésus a dit, mes brebis, dit je les connais par leur nom et elles me connaissent. Vous connaissez le Père, vous connaissez Dieu, vous connaissez votre Rédempteur, vous le connaissez, vous savez de quoi il vous a racheté. Vous pouvez, ça peut arriver que vous bronchiez, mais pas de commettre l'iniquité, vivre dans l'iniquité. C'est le péché fait exprès. Et y vivre, non. Quand vous avez commis quelque chose, si vous êtes un racheté, ça boum là-dedans. Seigneur, pardonne-moi. Amen. Connaissez le nom de Pierre. Connaissez même le nom du papa de Pierre. Il savait que Pierre s'appelait Simon. Dieu veut. Matthieu 16. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Pas un autre Simon, non. Celui-là, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il connaissait le nom de Saul de Tarse. Et Ananias, on n'en entend parler qu'une seule fois dans la Bible. Mais Dieu le connaît. Il le connaît par son nom. Actes chapitre 9. Du moins, c'est Ananias-là. À moins qu'il n'ait apparu ailleurs. Mais moi, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Acte 9, premier verset. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, homme ou femme, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Vous avez déjà vu une lumière tomber, faire tomber quelqu'un? Puissance dans cette lumière. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Et Saul de Tarse était son ennemi. Il liait les gens, il les amenait à Jérusalem liés. Il respirait la menace et le meurtre. Et Dieu le connaissait. Mais, alors, au verset 10, on voit, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, dites amen à ça. » Il connaissait Ananias. Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Vous voyez, il y a des gens que Dieu connaît. Ce Judas-là, on ne sait pas qui c'est. C'est certainement pas l'Iscariote. Hein. Il n'est plus là, de toute façon. Oui. Oh. Là, dans le cimetière, le jour de la résurrection, il connaissait Marie. Il va l'appeler par son nom, Jean 20. Dieu ne t'a, vous, il va pas vous appeler. Hey, psst, non. Il va vous appeler par votre nom. Jean chapitre 20. Verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Comme on l'a dit, il connaissait le nom des deux Lazare. Il vous connaît. Un jour, il vous appellera. Ceux qu'il a connus, il les a appelés. Aux Romains 8. Il vous appellera. Et quand il vous appellera, répondez. Dites, me voici. Il savait cela. Il va vous appeler. Si, même si il ne cite pas votre nom, s'il dit femme, ou bien homme, ou fils de l'homme, si vous êtes un racheté, soyez sûr qu'il vous connaît. À la résurrection, au cri, chacun des rachetés entendra son nom. Je ne me réveillerai pas parce que Frère Branham se réveille. Non, je me réveillerai parce qu'il va dire, François, réveille-toi. Sors de là. Dites amen à ça. Il vous citera par votre nom. Je ne me lèverai pas, je ne sortirai pas de ma tombe, parce que vous aussi vous sortirez de là. Non. Vous, chacun sortira de la tombe parce que Dieu l'aura appelé par son nom. Je n'ai aucune crainte là-dessus. La manière dont les choses marchent dans ma vie, et cela est valable pour vous, j'en suis certain. Je sais que Dieu me connaît.
Amen.
Même quand des malheurs s'abattent, je devais passer par là. Le malheur s'abat beaucoup sur le juste. S'il n'y en a jamais de malheur sur vous, c'est que vous n'êtes pas juste. Le malheur atteint souvent le juste. C'est psaume 36, je crois, ou quelque chose dans ce genre, ou 32. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et vous-même, combien de fois on n'a pas cité cette phrase, « Ah, heureusement, Dieu merci, telle chose s'est passée. » Mais c'est Dieu qui a pris soin de vous. Il ne faut pas qu'on le dise juste comme cela parce que les gens le disent. Mais un chrétien le dit parce qu'il le sent vraiment. Sans Dieu, il ne serait pas là. Moi, je le sais plus qu'un autre. Dans des moments de difficulté, quand tout tourne carré, quand tout tourne mal, je me souviens des temps où j'étais coincé, j'étais carrément devant la mer Rouge, puis Aïrote et consort entouré avec Pharaon derrière. Je me souviens comment Dieu m'a sorti de là. Je m'en souviens. Comme je le dis toujours, ça restera mon grand témoignage. Il y a eu la régularisation des papiers. Il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de gens qui ont été régularisés. Mais je sais que cette régularisation-là a été faite pour moi. C'était vraiment taillé à ma mesure. Et j'ai utilisé les papiers que eux-mêmes m'ont donnés. Que Dieu soit loué. Il vous connaît. Les choses qui, il est votre consolateur si vous êtes affligé. Il est votre médecin si vous êtes malade. Il est celui qui vous soulage si vous souffrez. Il est tout pour vous. Moi, je ne suis rien, mais lui, il est tout pour moi. Prions le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il connaît votre nom. Moi, je peux encore oublier, frère, comment il s'appelle encore, mais lui, il n'oublie pas. Prions le Seigneur. Père Céleste, c'est vrai, nous nous sommes assemblés en ton nom. Et c'est vrai, tu nous as aidés, tu nous as assistés pendant tout le temps que nous avons passé ensemble. Nous avons adoré, nous avons prié, nous avons chanté, nous avons écouté ta parole. Il a été apporté, nous te sommes reconnaissants. Notre soirée a été bénéfique. Parce que nous avons passé quelques moments avec toi. Et si nous sommes entrés ici avec des soucis, que nous puissions nous souvenir que ces soucis-là, tu les connais. Nous ne voulons pas les emporter avec nous. Nous les laissons à tes pieds, sachant que tu es plus que capable de t'en occuper. Ne te demande pas de les enlever. Te demande de nous donner la grâce de les surmonter. Que cela ne soit pas un frein pour nous dans notre marche. Que nous puissions marcher sachant que nous bénéficions toujours de ta miséricorde qui est sans borne. Nous nous attendons à toi pour toutes choses. Nous te remercions pour ce rassemblement. Prends-nous en charge alors que nous rentrons. Nous comptons sur ta protection. Nous comptons sur toi pour tous ceux que tu nous as donnés, que nous aimons. Pour tous ceux que nous t'avons remis entre les mains, tu te souviens d'eux, tu les connais également. Puisses-tu t'en souvenir, les visiter s'ils ont besoin de visitation, et que ta grâce soit sur eux. Pardonne tes péchés à tes enfants, nos frères qui sont nécessiteux, s'ils en ont commis, s'ils ont commis des péchés, que tu leur pardonnes et souviens-toi d'eux. Selon ta miséricorde, en leur apportant la guérison. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, notre Seigneur, fasse que cette guérison soit manifeste en chacun d'eux. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te demandons aussi en ce nom précieux de nous garder alors que nous allons entrer. Amen. Dieu.